Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition. En vous apprenant ou en vous rappelant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale et plus ou moins pertinente les petites images qui bougent sur tous les écrans que vous voulez. Moi, je préfère les grands, mais c'est comme vous voulez. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer, mais très rapidement, et ma voix en tremble, la carrière d'un des grands génies, l'un des seuls génies du cinéma, en l'espèce Orson Welles, réalisateur, scénariste, acteur, génie géant du cinéma américain et mondial. L'homme qui a signé au moins 4 ou 5 chefs-d'œuvre était né le 6 mai 1915, quelque part dans le Wisconsin. Comme on est méchant, on a presque du mal à croire qu'un tel génie pouvait être américain, mais si, il l'était. Son père était inventeur et sa mère pianiste, mais celle-ci meurt tôt. Et ensuite, le jeune Orson parcourt le monde avec son papa ingénieur, notamment en Chine. On raconte que dès l'âge de 2 ans, il savait parler comme un adulte, qu'à 3 ans, il savait lire, qu'à 7 ans, il pouvait interpréter Le Roi Lear de Shakespeare tout seul, etc., etc. Bref, on ne prête qu'aux riches et aux génies. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que dès 1926, alors qu'il n'a que 11 ans, il monte sur les planches pour jouer dans Madame Butterfly. L'histoire et ma petite fiche ne disent pas quel rôle il joue. Ensuite, eh bien, c'est d'abord le théâtre qui sera sa passion, passion qu'il conservera d'ailleurs au cinéma puisqu'il adaptera plusieurs pièces à l'écran. Et de 1931 à 1936, eh bien, Orson Welles se joue aussi bien Ibsen que Shakespeare, Tchekhov que Marlowe et même Labiche, avant de fonder en 1937 avec John Houseman le légendaire Mercury Theatre. Il est évidemment remarqué par les médias audiovisuels et en 1938, sa carrière radiophonique, puisque c'est par là qu'il commencera son incursion d'abord à la radio et ensuite au cinéma, eh bien sa carrière radiophonique est marquée par une adaptation à la radio de La Guerre des Mondes, ce roman d'H.G. Wells où on voit les Martiens débarquer sur Terre, et il en fait une adaptation tellement réaliste que l'histoire, la légende, disent que des milliers d'Américains partent sur les routes pour échapper aux petits hommes verts qui sont en fait des grands avec des tentacules. Mais bref, je fais court pour dire que évidemment un tel talent, un tel génie ne pouvait pas ne pas intéresser le cinéma. Et pour son premier coup d'essai, si l'on veut, en 1941, eh bien Orson Welles va signer comme ça d'un coup un film que d'aucuns considèrent comme le meilleur film de tous les temps. On va en reparler après, mais on va déjà écouter un extrait de sa bande originale. Vous avez peut-être deviné de quoi il s'agit. Ça s'appelle Citizen Kane et c'est dans 24 notes secondes.
Rather you just talked. Anything that comes into your mind about yourself and Mr. Kane.
When money, a lot of what comes into my mind about myself and Mr. Charlie Kane. You know, maybe I should never have thought for Charlie that first time I met him. But I did an awful lot of singing after that. To start with, I sang for teachers. $100 an hour. Teachers got that.
What did you get?
I didn't get a thing. Just music lessons, that's all there was in it.
He married you, didn't he?
Oh, he didn't mention anything about marriage till after it was all over and got in the papers about us. He lost the election and Norton divorced him. He was really interested in my voice. What do you suppose he built that opera house for? I didn't want it. I didn't want to sing. It was his idea. Everything was his idea. Why believe in him?
Il mio cor, don't forget ta 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 ta.
Oh, don't get nervous, don't get nervous. Please, let's come back. Da capo, eh? Please look at me, Mrs. Kane, darling. Now, get the ball out of the throne. Play the throne right in the mask.
Forward, forward. Nee, 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 nee.
Go ahead.
Diaphragm. Now. You're off the pitch.
Bah oui, ça finit bizarrement. 6 minutes de musique chaotique pour évoquer un film qui ne l'est pas. Un film réalisé par un génie de 25 ans seulement, qui est absolument magistral d'un bout à l'autre. Il faut cependant replacer cet extrait dans le contexte. Le film Citizen Kane eh bien, raconte à rebours la vie de Charles Foster Kane, qui vient de mourir, un mania de la presse bien mystérieux, qui vivait dans un palais appelé Xanadu et dont le dernier mot qu'il prononce juste avant de mourir est « Rosebud ». On saura tout à la fin, dans le dernier plan, pourquoi c'est le dernier mot qu'il aura prononcé. Mais je me garderai bien de vous le dire. Et pendant 2 heures, eh bien, on aura suivi une enquête façon puzzle, comme aurait pu dire Michel Audiard, qui s'efforce de reconstituer la vie de Charles Foster Kane, et en particulier dans l'extrait que nous venons d'entendre, ses efforts pour que sa femme de l'époque, alias Suzanne Alexander Kane, devienne chanteuse d'opéra, alors que la pauvre, vous avez pu l'entendre au début du morceau, eh bien, elle n'a pas de voix. Mais quand on est magnat de la presse et riche ici, eh bien, on impose ses vues. Et donc, c'est ce que racontent ces scènes où on voit Charles Foster Kane, bien évidemment interprété par Orson Welles, tenter d'imposer sa femme à des publics, comment dire, un peu réticents quand même. Bref, un film sur lequel il y aurait beaucoup à dire et du coup on en dira peu. C'est un chef-d'œuvre absolu. Il y avait à la musique, il faut quand même le citer, même si là c'était un peu mixé avec d'autres choses, Bernard Herrmann, qui sera l'un des complices d'Alfred Hitchcock et dont c'était, sauf erreur de ma part, l'une des premières partitions. Il faudrait aussi citer le nom du directeur de la photographie, Greg Toland, puisque le film comporte des effets qu'Orson Welles n'était pas le premier à utiliser, mais qu'il utilise de façon assez fascinante, comme l'utilisation de la profondeur de champ ou du plan séquence. Il y a des plans extrêmement longs et des plans où on voit des personnages très nets qui sont tout au fond de la scène, chose qu'on faisait très peu dans les années 40. Et en tout cas, il faut reconnaître que dès 1941, puisque le film sera projeté sur les écrans américains le 9 avril 1941 et en France, on s'en doute, après-guerre, eh bien, dès 1941, on comprit que ce film-là était un chef-d'œuvre, mais on comprit aussi, et Orson Welles le souligna à plusieurs reprises dans le reste de sa carrière, que c'est le seul film sur lequel il a eu l'entier contrôle du début jusqu'à la fin. Comme il le disait à l'époque, eh bien que la RKO, donc la société productrice, lui avait confié un magnifique train électrique et il avait su en faire ce qu'il en a fait. Allez, on va écouter un extrait de la bande originale du deuxième film d'Orson Welles. Ça s'appelle La splendeur des Amberson. La musique est à nouveau signée de Bernard Herrmann et vous êtes toujours dans 24 notes secondes.
Thank you.
La délicate partition de Bernard Herrmann, bien loin de celle de Citizen Kane, pour la splendeur des Amberson, The Magnificent Amberson en anglais, un film d'Orson Welles tourné en 1942, un an après Citizen Kane, dans lequel il ne joue pas, puisque les rôles principaux sont tenus par Tim Holt, duquel j'ignore tout, je l'avoue, et Joseph Cotten, ce brave Joseph Cotten qu'on avait déjà vu dans Citizen Kane, pour un film qui est une sorte de saga familiale, inspirée d'un roman de Bruce Tarkington, duquel j'ignore tout. Et un film qui bénéficiait notamment de la magnifique photographie du directeur de la photo Stanley Cortez, un des grands maîtres des ombres et de la lumière des années 40-50, et un film qui est aussi, hélas, le signe du combat que Orson Welles devra mener avec les producteurs tout le long de sa carrière, ô combien tourmentée, puisque le film terminé fait plus de 2 heures, c'était le cas aussi de Citizen Kane qui faisait 2 heures pile. Ici, on en est à 2h10 et les producteurs décident que c'est beaucoup trop long. Et du coup, ils profitent du fait qu'Orson Welles se soit parti ailleurs pour tourner un autre film, It's All True, qui restera d'ailleurs inachevé, pour demander à Robert Wise, qui avait déjà été le monteur de Citizen Kane, pardonnez-moi, de monter aussi La Splendeur des Amberson. Mais alors là, de vraiment le monter en supprimant carrément 40 minutes. Hein, ce qui fait que 2h10 moins 40, ça fait un film d'1h30 qui est le format standard hollywoodien. Alors personne, en tout cas à ma connaissance, n'a jamais vu la version d'origine d'Orson Welles. Mais le brave homme, on peut le comprendre, fut assez furieux de voir son travail ainsi massacré, c'est le mot qui convient, par Robert Wise, qui fut pourtant après un réalisateur plus qu'estimable du cinéma américain, puisqu'on lui doit entre autres vraiment West Side Story, quelque part au début des années 60. Mais personnellement, à Robert Wise, ça, je ne le lui ai jamais pardonné. C'est pas beau de faire des coups en vache sur ses copains quand ils sont pas là. Mais c'est aussi la vie d'Hollywood et c'est aussi un symbole de ce que sera ensuite la carrière d'Orson Welles, puisque l'homme multipliera les projets inachevés. Je viens de citer It's All True, tourné en 1942, mais il y eut aussi un Don Quichotte tourné en 1955 et qui ne fut jamais achevé. Et en 1970, eh bien, le dernier film d'Orson Welles, The Other Side of the Wind, ne fut lui aussi jamais tourné, mais il paraît qu'il a été montré au dernier festival de Cannes, monté par un autre réalisateur américain, Peter Bogdanovich. Donc on peut espérer voir presque 30 ans après la mort, 40 ans que dis-je, après la mort d'Orson Welles, un film signé Orson Welles. Vraiment, ce diable d'homme nous aura tout fait. Et on va écouter un extrait, évidemment, d'une autre bande originale, celle d'un film tourné cette fois en 1946. En 1946, Orson Welles tourna 2 films, Le Criminel, The Stranger, et le film dont nous allons écouter un extrait. Il était alors marié à rien moins que Rita Hayworth. Ma foi, là aussi, on a la carrière qu'on peut. C'est avec Rita Hayworth qu'il tourna La Dame de Shanghai, The Lady from Shanghai. Et comme Rita Hayworth, elle était brune, eh bien, il la teinta en blonde pour le film. Il y a aussi des génies pervers. Allez, on écoute un extrait de la bande originale dans 24 notes, seconde.
But if you hold me, don't take your arms away. Comes a change in weather, comes a change of heart, and who knows when the rain will start. So I beg you, please don't love me. But if you love me, then don't take your lips or your arms or your love away.
C'est très court, mais ça suffit à donner le frisson. Non, c'était bien évidemment Rita Hayworth elle-même chantant dans La Dame de Shanghai, un film très, très compliqué, d'après un roman de Sherwood King, une histoire évidemment policière, et on en retiendra surtout, alors déjà, la coiffure de Rita Hayworth, mais là, c'est plutôt anecdotique, et puis surtout quelques scènes d'anthologie, notamment une scène tournée au milieu de miroirs où tous les personnages se trouvent décomposés en différentes incarnations, toutes plus fantomatiques les unes unes que les autres, jusqu'à ce que Orson Welles, qui interprète le rôle principal aux côtés de Rita Hayworth, se tire dans les miroirs. Et alors là, vous ne comprenez absolument plus rien, mais c'est quand même extrêmement brillant. C'est souvent le cas d'ailleurs avec Orson Welles, et là encore, mais presque je le mentionne pour mémoire, eh bien le film fut massacré par le producteur, puisqu'il ne fait que 80 minutes, je ne sais pas combien il faisait au départ, mais 80 minutes c'est bien court, surtout pour une histoire aussi compliqué. L'histoire retiendra aussi qu'au moment où ils ont commencé le tournage, eh bien Orson Welles et Rita Hayworth étaient en procédure de divorce. On a connu sans doute une ambiance plus intéressante sur un plateau. On va continuer en écoutant cette fois un extrait d'un film tourné en 1948. Alors, j'ai déjà dit tout à l'heure que Orson Welles était un fou de théâtre. Eh bien, il se trouve que sa première mise en scène de théâtre, ça avait été un Macbeth interprété uniquement par des acteurs noirs. Et du coup, eh bien, sa première adaptation shakespearienne, ce sera aussi Macbeth, un film dans le rôle principal duquel il y avait évidemment Orson Welles aux côtés d'acteurs peu connus. Et le scénario, eh bien, il était inspiré d'une pièce de William Shakespeare, bien sûr, dans 24 notes secondes. Encore un extrait bien court, un extrait de la bande originale de Macbeth, dont il faut quand même souligner qu'elle est signée de Jacques Ibert, un compositeur français, surtout connu d'ailleurs pour ses compositions classiques de la musique pure, comme on dit parfois, mais qui ne dédaigna pas avant-guerre et après-guerre donc de s'intéresser au cinéma. Macbeth qui fut tourné en 21 jours. Croyez-moi, c'est un exploit de tourner un film, surtout un film assez long, en 3 semaines. Et il me reste, hélas, quelques secondes, quelques poignées de secondes pour évoquer encore la carrière d'Orson Welles. Donc avant d'écouter évidemment un dernier extrait musical, je m'en voudrais de ne pas signaler que l'homme tourna entre 1949 et 1952. C'est signe encore d'une production chaotique Othello, toujours d'après William Shakespeare, et toujours avec Orson Welles dans le rôle principal, qu'on peut aussi noter dans l'oreille de sa carrière Le procès d'après Kafka avec Anthony Perkins, tourné en 1962, mais que ma foi, le reste est moins intéressant, sauf le film sur lequel nous allons conclure, un film tourné en 1958 avec Charlton Heston et Janet Leigh dans les rôles principaux, mais avec aussi Orson Welles qui s'était réservé, comment dire, le rôle le plus répugnant de toute l'histoire du cinéma, ou presque. Un film qui s'appelait en anglais Touch of Evil, en français La soif du mal. Ça se passe quelque part à la frontière mexicaine. C'est connu pour comporter certainement l'un des plans séquences les plus longs de toute l'histoire du cinéma, puisqu'il doit durer une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce que, oui, mais je ne vais pas quand même vous spoiler, la musique, elle est signée de ce cher Henry Mancini. Et je peux vous assurer que dans 24 notes secondes, elle déménage la musique. Thank you. Voilà, pardon Henry, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.